Vous écoutez
RMC. RMC. 15h18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le meilleur du Super Moscato Show dans 20 minutes. On va parler marathon avec Dorian Louvet qui a enchaîné les marathons cette année. Et puis, puisque vous êtes resté jusqu'à 17h04, vous le méritez. Dans quelques minutes, il y aura un petit bonus
bien sûr.
Deschamps.
Et le Kikadi,
qu'est-ce qu'il y a dans le Kikadi?
Kikadi, alors je vous dévoile pas la fin, je ne vous spoil pas, mais Vincent va tenter de tricher, ce qui est rare. Va-t-il y arriver? C'est ça l'enjeu de ce Kikadi. Ce sera à 17h45.
Allez, tout de suite, le bilan du tournoi Destination avec le sélectionneur Fabien Galthié. C'était sur RMC le 19 mars.
Le dernier match du tournoi Destination, c'est parti!
Le grand chelem est perdu, ça c'est sûr.
5 mètres de la ligne.
Il reste deux
pas de faute non plus.
À hauteur sur l'extérieur,
c'est
anglais!
I don't like chocolate cake.
Parfois, mais ils nous déstabilisent par rapport à leur fait de leur imprévisibilité.
Tommy Freeman, qui vient mettre un glaive dans le cœur des Français à la 77e.
C'est terrible parce qu'ils se prennent la main, les mains dans les
50 secondes.
Do you have a cake?
Ils sont saignants. Les Anglais, ils sont là, on a reculé.
I don't like the chocolate, not chocolate.
Les Anglais, ils sont quand même résilients. Hein.
Résilience, you know.
Avantage pour l'équipe de France.
De la dernière chance.
Résilience, because it was like traumatisme.
Ce ballon, qui part.
Une frappe surpuissante. Non, je rigole quand je dis superstar.
Remporte le tournoi Destination.
Un moment exceptionnel du rugby français.
Quand je dis milliers de mouettes sont venus sur le stade et comme remercier les héros qui venaient de gagner.
C'est très juste de dire.
Moscato, il va te le régler le problème.
Allez, Fabien Galthié, sélectionneur du 15 de France, tournoi Destination. J'ai vu sourire, voir un peu plus pendant cette illustration à but humoristique, Fabien.
Bien sûr.
On a le droit de se moquer des sélectionneurs.
Bah, c'est le but de l'émission.
Non, mais sans parler du but de l'émission, il n'y a rien de sacré, on est d'accord.
Bah, allez-y.
Là, je te pose juste ton avis d'auditeur.
Je vais être d'abord un peu sérieux.
Bah oui,
après,
oui,
parce que je risque d'oublier. Non, moi, je voudrais partager cette victoire avec tous les salariés de la Fédération française de rugby, tous les bénévoles des ligues et tous les passionnés de rugby. Je voudrais vraiment leur dédier, leur dire qu'avec eux, sans eux, c'est pas pareil. Donc, je voulais les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous depuis la compétition et même avant. Voilà.
Alors, on a plein de choses à te demander. Plein de choses à voir avec toi.
Dommage, on peut y aller.
On vient d'entendre quelques extraits de la fin du match contre l'Angleterre. Le match en lui-même était complètement fou. Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que c'est un signe des temps? Est-ce que ça va se reproduire ce genre de match?
Il y en a beaucoup maintenant. Hein. Si vous regardez le Cannes Nations de l'an dernier, vous regardez le Six Nations de cette année, l'arbitrage, les règles aujourd'hui font que par moment il y a des. Vous pouvez marquer 21 points d'affilée, puis prendre 21 points en suivant. Vous pouvez, ça va très vite. Mais ce qui est bien, c'est que dans un match, il y a plusieurs temps forts et plusieurs temps faibles. Donc ça donne le scénario de ce match-là et d'autres aussi.
On a l'impression que c'est le volume de jeu qui fait péter les défenses. Parce que depuis trop longtemps, les mecs sont organisés en défense. Alors bien sûr, on peut avoir un mec qui se loupe. On a vu Moïfana qui s'est un peu loupé de temps en temps. Tu peux avoir un joueur qui de temps en temps n'est pas là. Mais en général, la défense, elle est réglée en équipe de France, comme à haut niveau, elle est très réglée. Mais le volume fait qu'un peu comme on disait autrefois dans le jeu à 13, que ça se faisait sur la fin. Les mecs explosaient en défense. Ouais. Et là, j'ai l'impression que maintenant, ces scores-là font parce qu'il y a énormément de volume de jeu. On a vu quand même cette année, on a attaqué de partout. Alors, je veux bien qu'il y ait Jalibert et tout ça, mais tout le monde en France aussi. Regarde les Anglais, on ne s'y attendait pas, les Anglais. Ouais. Les Anglais qui sont quand même assez rustres dans leur jeu, toujours avec leur conservatisme. Mais là, j'ai l'impression que maintenant, du 40, du 30, des 40 à 30, on va en avoir beaucoup,
pas tous les matchs, mais c'est les deux derniers, oui.
Quand on a gagné le Grand Chelem en 2022, la règle de base, c'était après trois rocks, si on n'avait pas le momentum, il fallait se séparer du ballon pour remettre la pression plus loin. Parce que les règles qui étaient données à la défense étaient quand même très avantageuses pour la défense. On savait que dès qu'on perdait un peu d'énergie, dès qu'on perdait la ligne d'avantage, on était en difficulté. Aujourd'hui, les règles sont régies par trois principes de base. Donc, space, donc il faut de l'espace, donc des lignes de hors-jeu qui sont hyper exigeantes, qui repoussent en permanence. Aujourd'hui, les derniers pieds, la ligne d'hors-jeu qui se passe derrière un ruck, c'est plus derrière le ruck, c'est 50 cm derrière le ruck.
Donc,
tous les espaces, ménager des espaces, speed, donc de la vitesse, Ils veulent de la vitesse.
Mais ça, tu devrais nous traduire, par contre, tout ça, par l'anglais.
La vitesse.
Et safety, sécurité. Donc, baisser la hauteur du plaquage.
Donc, baisser tu penses la hauteur que c'est ces trois consignes-là qui rendent le jeu plus attrayant.
Tout. Je suis sûr.
Si on prend les scores de ce tournoi, on marque autant que l'année dernière.
Marque plus.
Et on prend beaucoup plus de points et d'essais.
On marque en moyenne 40 points. Donc, c'est-à-dire que pour nous battre aujourd'hui.
Le nombre d'essais, il n'y a pas la même progression en attaque que régression en défense. Est-ce que tu estimes, toi, que le 15 de France a progressé par rapport à l'année dernière ou pas?
Je sais pas. On a marqué des chiffres, on marque 30 essais autant que l'an dernier. On est à 40. Voilà. Alors, j'ai un tableau de bord. Et ça permet de voir ce qui marche, ce qui marche pas. On a la meilleure attaque de la compétition avec 40 points marqués de moyenne. Les équipes qui sont derrière nous, c'est la seconde équipe, elle a 10 points de moins que nous. En défense, on a la troisième défense de la compétition. La meilleure défense, c'est l'Irlande, avait 21 points encaissés. Et nous, on a la troisième défense, avec 26 points encaissés.
Alors, est-ce que c'est souci pour le sélectionneur de prendre plus de points qu'auparavant?
Moins si tu prends 2 points, plus c'est facile de gagner, moins ça a besoin d'en marquer. Donc c'est sûr qu'avoir une meilleure défense, je le reconnais, on a besoin d'améliorer nos défenses. Mais notre défense, elle commence par le chaos, par le jeu de dépossession, de repossession. Elle continue par les phases de conquête. La mêlée et la touche. Aujourd'hui, la mêlée, il y a très peu de mêlées qui se jouent. C'est-à-dire que sur chaque mêlée, aujourd'hui, t'as plus de 50% de mêlées qui sont pénalisées. En fait, la mêlée, c'est un moyen, par un rapport de force, de regagner la possession et d'aller taper une touche à ce qu'on appelle un pénal touche. Donc, contre l'Angleterre, il y a deux mêlées qui se jouent aux 50 mètres. On est pénalisé. Ils vont jouer deux pénal touches sur notre ligne de but. Ils vont marquer deux essais.
Est-ce que parfois justement, c'est intéressant. Alors sans dévoiler de secrets évidemment, mais on a envie de tout savoir.
Vous avez des secrets.
Non mais Fabien, quand tu parles à des joueurs, des tauliers du groupe, tu étais taulier de toutes tes équipes, toi. Est-ce que parfois il arrive sur des points stratégiques très importants d'avoir un vrai désaccord? Sans qu'il y ait de clash, je parle pas d'embrouille, mais Antoine, Mathieu Jalibert, Antoine Dupont, disent non les gars là, je suis pas du tout d'accord avec vous sur cette façon d'aborder telle phase de jeu.
On va présenter les choses différemment, c'est-à-dire que eux ils veulent gagner, d'accord?
Oui.
Et moi je veux gagner. Donc on est toujours d'accord sur le principe de base, on veut gagner. Donc après pour gagner, il faut faire des choix. Nous, notre rôle, c'est de leur présenter la meilleure stratégie possible pour les mettre en possibilité de gagner. Eux, et les choses sont parfois différentes qu'en club, c'est-à-dire qu'aujourd'hui notre animation offensive,
et oui, c'est pour ça.
Ça se joue pas comme ça dans les clubs. Mais nous, si on a décidé qu'on allait jouer comme ça, c'est depuis 2024.
Oui.
Et il faut arriver à expliciter. Donc nous, si vous voulez, par exemple, je vais vous donner peut-être une info que vous n'avez pas, c'est que tu sais, avant, t'avais toujours le coach qui faisait des grandes réunions, qui prenait le tableau noir, qui expliquait. Un maître d'école ou comment ça allait se passer, un professeur d'université, voilà. Et maintenant on fait ça avec l'image. Eh bien nous, on n'a pas de réunion comme ça. On appelle ça des cafés discussion. C'est-à-dire que tout le monde arrive le matin, on boit le petit café et grâce aux ordinateurs tout ça, on a six coachs, donc on a six groupes qui tournent tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure pour traiter un sujet qui correspond uniquement. Parce que par exemple les avants, on va pas leur parler, par exemple, de l'attaque en bout de ligne, tu vois. Au trois quarts, on va pas leur attaquer, on va pas leur parler de la prise de liaison mêlée. Donc on essaie de dispatcher tout ça. Et tous les sujets dont vous parlez, c'est-à-dire comment on va attaquer, comment on va défendre, quel est le fil rouge, c'est toujours discuté en amont, au moins à partir du dimanche soir, du lundi matin, du lundi après-midi. On le voit d'abord en clarté, on le voit après en image, on le voit d'abord, on dessine, on a des outils, et ensuite c'est validé. Et pour le jouer, effectivement, il faut que l'ensemble des joueurs soient en accord ou soient convaincus. Et c'est pas toujours facile, parce que quand t'es, par exemple, en club, tu joues un ballon de récupération en le jetant derrière, en faisant trois grandes passes. Eh bien, nous, un ballon de récupération, on le joue sur la ligne d'avantage. Et donc, après, il faut l'expliquer pourquoi. Il faut expliquer pourquoi on va jouer ce ballon de récupération.
Parce qu'il y a des caractères aussi, des gens qui aiment le jeu.
Oui, mais c'est des joueurs intelligents. Mais être intelligent.
Des questions sur les joueurs. Jalibert a fait un très bon tournoi. En tout cas, selon les observateurs d'RMC, il a donné satisfaction. Je pense aujourd'hui, c'est quoi la position du sélectionneur sur le poste de 10?
Alors, je vais vous dire.
Est-ce que le jour où Romain Tamac est à 100% de ses moyens, il y a concurrence ou est-ce que Jalibert est devant?
Je vais vous dire. Donc, des meilleurs, pour moi, dans le tournoi, les cinq meilleurs. Jean-Baptiste Gros,
Oui, Jean-Baptiste Gros. Oui.
Énorme.
Bien sûr.
Révélation, Oscar Jégou, Théo Atisogbe, Mathieu Jalibert, pas révélation, confirmation, ça fait notre... Il a gagné une compétition avec nous. Les deux premières, c'était
il
Romain.
Il a 30 sélections en plus.
Maintenant, c'est lui qui a gagné une compétition. Romain a gagné deux, lui en a gagné une. Voilà, en gros, les, et bien sûr, la solidité de Thomas Ramos, c'est en ce moment clé. Voilà les joueurs du tournoi.
Les donc, il est devant Romain ou pas, franchement?
Alors là, vous allez vous régaler pendant deux ans.
On va faire des débats
là,
incroyables.
Là, franchement, là, vous avez de la matière pour créer la polémique. Ah,
si tu veux pas répondre, ça, dis-moi tout de suite que tu veux pas répondre.
Il va pas te répondre.
Non, je vais te dire, ce sont deux super mecs qui vont avoir le malheur d'être opposés par des gars comme vous, par exemple, comme toi, par exemple, qui vont chercher la polémique et chercher pourquoi si, pourquoi
non,
ça.
Non, mais il n'y a qu'une seule place, Fabien.
Mais ce sont deux super joueurs. Ce sont deux super joueurs. On a gagné avec Romain, on a gagné avec Mathieu. Et moi, ce que j'aimerais, ce que je vous demande, s'il vous plaît, prenez soin d'eux.
D'en parler.
Prenez soin d'eux. Bon. Respectez. Avant de dire,
ça n'empêche pas qu'il n'y a qu'une seule place.
Polémique, s'il te plaît, je finis. Avant de polémiquer là-dessus, s'il vous plaît, respectez leur talent. Respectez. Ce sont vraiment des bons joueurs et des bons mecs. Et je suis sûr qu'ils vont tout donner pour l'équipe de France. Et on a besoin des deux. Alors je sais qu'ils vont être soumis à ce type de sujet, mais je vous demande, prenez soin d'eux.
Tu sais, poser la question qui mérite le plus de jouer, ce n'est pas un manque de respect. Hein. C'est la compétition du sport de haut niveau.
Moi, j'aurais te parler de Mathieu, parce que Mathieu, tu ne l'as pas lâché. Tu as toujours été derrière lui. On sait que tu dis que c'est une confirmation. C'est presque une révélation pour moi. Parce qu'il a joué au même niveau qu'il joue avec le Bordeaux.
C'est pas pareil, tu sais.
Oui, mais on, non, mais je le sais, Fabien. Mais on l'a senti libéré et je sais que t'es pas pour rien dedans.
Parce franchement, que je vais te dire.
Vous parler. Non, mais c'est vrai. Non,
ce franchement, je te dis. Toi, t'as joué en équipe de France, tu sais ce que c'est. T'as joué avec Jacques Fourroux, t'as été entraîné par Jacques Fourroux, qui te faisait énormément confiance.
Ah ouais, ça fait.
Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment, le joueur. C'est lui. Et la performance, il la doit qu'à lui. Et t'es gentil, Denis. Moi, je rajouterais, bien sûr, Patrick Arletas, qui a su aussi trouver le bon mix. Parce que, en fait, Mathieu, il avait besoin de jouer et avec Antoine et avec Thomas. Nous, on joue avec 2-10. Et je pense que sur un plan offensif, Patrick a réussi à trouver la bonne recette pour que ses joueurs jouent ensemble. Et surtout, s'apprécient. Ils se sont énormément appréciés.
Alors, meilleur niveau. Romain, bien sûr, à l'ouverture, qui est extraordinaire quand il a son meilleur niveau. Et Jalib, qui a son meilleur niveau, c'était l'Afrique du Sud à jouer. Devant, c'est un dilemme. Les autres, ils n'ont pas tout à fait le même jeu.
Si tu joues les Sudaf.
Tu joues les Sudaf.
Ils n'ont pas le même profil.
Est-ce que tu peux tourner à ce poste-là? Non, tu ne peux pas tourner à ce poste-là. Pour le moment, ce poste-là, c'est un quarterback au football américain. Où le goal au football, on ne tourne pas.
Pour le moment, avec un 6-2, on a tendance à avoir 2-3 quarts.
Ouais.
Dans un 6-2.
Tu vas rester en 6-2 comme ça?
Pas sûr. On a le 5-3, on a le 7-1. En fait, avec Oscar Jégou, on a un centre caché, donc on peut faire du 6-2. Mais bon, pas sûr. Ça dépendra de l'évolution des joueurs. Mais on a besoin de tous les deux. Rappelez-vous, en 2023, Romain Tamac se fait un croisé, c'est Mathieu qui joue. Cette année, Romain était blessé. C'est Mathieu qui joue. L'an dernier, c'était Mathieu qui était blessé, c'est Romain qui joue. Moi, ce que je trouve bien, c'est que les deux joueurs ont gagné des compétitions. Et donc, ils ont une forme de légitimité. Et Mathieu, pour répondre à ce que tu disais, Denis, aujourd'hui, il est légitime. Et il est légitime dans le groupe. Bon, vous, je sais que il est légitime pour en discuter. Mais il est très apprécié, il est légitime dans le groupe. Et ça, c'est très important.
Fabien, il y a un autre joueur qui est très fort et qui est très légitime, c'est Damien Penaud. C'est un joueur hors norme. Ah, il n'a pas fait le tournoi. Est-ce qu'il est loin de l'équipe de France aujourd'hui? Oui, c'est normal que tu l'attendes.
Ça vous a beaucoup occupé, je pense.
Peu importe si ça nous occupe ou pas. L'important, c'est de savoir
si tu pouvais nous trouver le statut de Damien Penaud.
Je trouve des occupations.
Ne t'inquiète pas, des occupations, sans trouver. Si on ne parle plus de Damien Penaud, on parlera d'un autre. Mais c'est un joueur à part. C'est pas un joueur comme les autres. Est-ce qu'il est loin de l'équipe de France?
Tout le début du tournoi, ça vous a beaucoup occupé.
Peu importe si ce qui nous a occupé, c'est pas la question.
Et donc,
parce que ça a dû t'occuper toi surtout.
Non, je fais des choix. Je fais
ça
des choix. Et alors, donc tu as le droit de remettre mes compétences à.
Demande est-ce qu'il est loin.
C'est
la question. C'est une question de compétences.
Tu as le droit de remettre mes compétences
c'est
et mon travail. Quand on prend des décisions, je dis on parce que c'est nous le staff, et je voudrais féliciter aussi le staff pour son travail et sa robustesse.
Même Arletas
notamment, mais je voudrais citer, mais... là, on a 30 personnes dans le staff, mais quand on prend des décisions, je te promets, tu peux mettre en doute nos compétences et notre travail,
c'est
mais,
pas le cas.
Mais vraiment, on a tout regardé, et c'est notre métier de tout regarder, mais on a tout regardé, on a tout mesuré. Et quand on décide de partir dans ce tour destination avec ce groupe-là, on le prend en connaissance de cause. Et on sait qu'il y a des joueurs qui vont être déçus, et on sait comment vous allez avoir de la matière, mais vous parlez de Damien, on peut parler de Gaël, on peut parler de Greg. Je les ai appelés, et je leur ai dit, pour ce tournoi, pour le moment, on va commencer avec des 42 sans vous. Vous ne serez pas dans l'équipe et je ne vais pas vous faire travailler avec les jeunes parce que dans les 42, il y a une équipe qui joue l'adversaire. Donc, je ne vais pas vous faire ça. Et ils étaient d'accord.
Ils ont compris. Ils n'ont pas compris.
Oui, mais je pense que quelque part, être dans les 42, c'est pour eux qui ont 60 sélections, 80 sélections, c'est peut-être pas...
C'est dur d'écarter un grand joueur. Toi, tu es un grand joueur.
C'est très dur.
Pour toi, c'est quelque chose de très compliqué.
Je vais vous répondre. C'est plus dur d'écarter un joueur qui est énormément capé et qui a un record de sélection, un record de cap, que de le garder. Garder un joueur, c'est presque... Moi, si je veux être tranquille, si je veux pas être embêté, ben, je fais des choix pas courageux. C'est-à-dire, je prends ceux qui ont une référence. Ouais. Après, vous allez leur taper dessus parce qu'ils sont pas performants. C'est ce que vous faisiez depuis un moment sur les joueurs, vous leur tapez dessus. Mais en même temps, vous avez votre lecture. Mais c'est plus dur... C'est plus dur de pas sélectionner un grand joueur que de sélectionner un grand joueur. Et c'est plus facile de pas prendre un jeune joueur à potentiel que de le mettre. C'est clair. Après, c'est un challenge. Et le grand joueur qui sort et le petit joueur ou le jeune joueur qui a pas d'expérience qui prend sa place. Moi, là où je fais attention, je dis attention à la pression qu'il va prendre parce que Théo Atisogbe qui jouait à l'aile droite, Anthony Jelonge qui jouait en 8, mais c'était surtout Oscar Jégou qui avait pris ce rôle-là. Faut pas oublier que Paul Boudéa n'a pas été notre meilleur avant l'an dernier, n'a pas joué puisqu'il était blessé. Gaël Ficou, presque sans sélection, qui n'apparaît pas au centre, c'est quand même, si on regarde, ce sont des grands joueurs et qui ont 30 ans, quoi.
Est-ce que le risque, Fabien, c'est de ne pas les perdre, ces joueurs, à un moment? Damien, on le connaît, beaucoup de caractère.
Il y a l'élimination naturelle.
Non, de les perdre psychologiquement, c'est dur à gérer ça.
Et l'équipe de France, il faut être solide, Pour jouer à l'équipe de France,
après,
il faut être solide.
Hein. On tombe sur personne. On a la passion, nos questions sont passionnées. Elles sont venimeuses, parfois, parce qu'elles sont passionnées.
Animées,
bien entendu.
Passionnées.
En plus, c'est notre job de faire ça parce que nous, on est hélas, maintenant, on ne fait que regarder.
Et c'est pour
et
ça
donc,
que vous
c'est important qu'on se pose la question par rapport au petit penaud.
Et tu as beaucoup de succès, tu as beaucoup de leaders, j'entends dire.
Ça bricole.
Je me souviens quand tu commençais à Radio Gaillac, tu avais moins de monde.
Fabien, une question qui n'est pas venimeuse.
T'as fait la radio dans le Tarn, je t'ai écouté.
Une question qui n'est pas venimeuse, mais ton état d'esprit, toi, en tant que sélectionneur, quand tu te réveilles le dimanche matin, est-ce que tu te dis, c'est une piscine de bonheur, comme tu l'avais dit à l'époque, on a gagné le tournoi, ou est-ce que tu te dis. Mince, là on avait le grand chelem entre les mains et je suis un peu dégoûté.
C'est vous qui l'avez dit ça.
Non mais toi,
je
me suis posé la question.
Depuis le début du tournoi, vous annoncez grand chelem.
Ah oui.
Soit
c'était légitime.
C'est légitime.
Je
me permettrais.
Vas-y.
Soit vous connaissez pas nos adversaires. Et de temps en temps, il faut aller voir les matchs et il faut descendre sur le terrain parce que nos adversaires, il faut les voir sur le terrain. Et franchement, le tournoi, il est très très relevé, nos adversaires sont redoutables. Ou soit c'est un manque de respect parce que vous voyez bien que dans le tournoi, et toi tu l'as joué le tournoi.
Avec toi?
Oui.
Pas longtemps.
Oui, mais justement, il a mesuré l'intensité émotionnelle qu'il y avait dans le tournoi, même si c'était un autre temps, il a mesuré à chaque match. C'est une histoire. Et l'équipe qui a dominé la journée 1, elle part en journée 2.
Mais ça, on le voyait pas avant. Pas tant que ça. C'est pour ça que moi, je te dis le premier. Alors, l'enthousiasme, bien entendu, parce que t'as envie d'un grand chelem, parce que tu sens cette équipe qui est belle, qui a une génération incroyable et tout. Et moi, je disais, on reçoit trois fois, faut appuyer. On n'est pas loin de la Coupe du Monde. Faut faire le grand chelem. Et quand on perd en Écosse, je comprends qu'on perd. J'ai une déception.
T'as le droit.
Moi, j'ai une déception qui est terrible. Je me dis, merde, qu'est-ce qui a pas marché?
Il faut que je raconte ce que c'est l'Écosse. Donc, on commence le tournoi, franchement, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça face à l'Irlande. On marche sur l'eau. on continue, on va à Cardiff, donc on perd nos trois centres blessés, on part avec nous, avec deux nouveaux centres, on tourne un petit peu, on va à Cardiff, on marche sur l'eau, on joue l'Italie, il y a 48 minutes où il y a 0-0, et puis avant et après 30 points, ok. Et l'Italie n'a pas pris 30 points. Après nous, vous savez où
ils ont ramassé le plus dur du début.
C'est au Pays de Galles.
Il
a gagné depuis 2 ans. Et ensuite, une semaine de coupure, et on part en Écosse. En Écosse, voilà comment ça se passe en Écosse. Tu arrives, tu as 15 000 Français, et tu as 60 000 Écossais que tu ne vois pas. Ils sont dans les arbres, ils sont cachés par terre. Ils sont... Les Français, on est chez nous. Bon, tu rentres dans le stade. Et là, d'un coup, t'as les guerriers pictes, tu sais, à l'époque des Romains qui n'ont jamais réussi à les envahir.
Sur le mur
jamais
gagné de bataille.
T'as les Écossais qui rentrent et là,
tu vas voir
Scotland. Et là, tu dis, waouh, on n'est pas chez nous. Et là, tu vois les Écossais qui sortent. Et les Écossais, ils savent choper les équipes. Alors, ils ont du mal sur la longueur de la compétition, comme tout le monde. Mais quand il faut sortir le match, ils sont capables de sortir. Et nous, ce que je voulais dire sur le match de l'Écosse, il s'est passé plein de choses. Je n'ai pas rentré dans les détails, mais il s'est passé plein de choses complexes à gérer. Mais on a ramené un bonus défensif et on a fini à 10 points. C'est-à-dire, on a failli ramener aussi un bonus, bonus de 4 essais. Et il nous manquait 3 points pour ramener le bonus défensif dans un match tellement complexe. Mais ça, on a appris de 2000-2001. On a appris que les bonus comptaient. Donc, dans la gestion de cette compétition, ça nous a permis de jouer entre guillemets, avec la victoire pour le tournoi face à l'Angleterre.
Fabien Galthié, merci beaucoup d'être venu dans le Super Moscato Show.
Merci, Fabien, toujours un plaisir.
Tout donné.
T'as tout donné, quand même.
À bientôt, Fabien. Il cherche les problèmes tous. Il cherche la confrontation.
Il est coquin.
C'est fou, hein.
Il est coquin. Joli costume, jolie lunette.
Il y a un petit peu de paranoïa,
mais ça va.
Comme parfois il se détend complètement, ça va. Il est grand temps d'écouter. Didier Deschamps,
c'est gratuit, c'est pour vous. Tu assumes.
Je vais pas être plus pragmatique que pragmatique. La ligne directrice, c'est les 24 autres joueurs rentreront dans cette réflexion. La Colombie est une très bonne équipe.
La Colombie
a fini devant le Brésil. Il y a un décalage horaire qui est en 48 heures et non est-ce facile. Voilà, la Colombie, après, on le sait. Et non, c'est pas... C'est pas la nervosité liée à ça. Cambiado casi todos los. Il y a sa propre performance. On n'est pas à la recherche du luxe absolu, mais surtout les décisions en vue de cette Côte du Nord. Garantir une qualité de pesouze de très bon niveau.
La Colombie. C'est où ça? C'est dans quel continent?
Colombie. C'est pas mal au foot, hein, la Colombie.
C'est exceptionnel. Bon, allez. Didier retrouve un club vite, hein, très vite. Hein. Dans un instant, Dorian Louvet et ses 7 marathons. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h. Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show, le Kikadi, arrive dans un quart d'heure sur RMC. Avant cela, Dorian Louvet va nous raconter son incroyable série enchaînement de 7 marathons.
C'était le 14 novembre. Ils ont raconté une histoire de dingue. Il revenait de faire une série de 7 marathons.
Il s'appelle
7 marathons.
Dorian Louvet. Et il était donc notre invité en début de saison dernière.
RMC,
le cri du cœur du Super Moscato Show.
Dorian Louvet, le Français de 36 ans qui a bouclé son défi et son record, qu'on va vous rappeler, les 7 marathons majeurs du monde avec une moyenne de moins de 2h30. Salut Dorian.
Salut les gars.
Salut Dorian.
Salut. Comment
va
Dorian?
Ça va très bien, merci.
Tokyo, content d'être là. 2h18 et 56 secondes, Boston 2h33, Londres 2h33, Sydney 2h28, Berlin 2h28, Chicago 2h25 et donc New York 2h27. T'as couru New York le 2 novembre, c'est ça?
Ouais.
T'es dans quel état là?
Soulagé.
Non mais physiquement.
Ça va, franchement ça va, parce que quand ça termine bien en général, tu récupères toujours mieux. Ouais. Mais après j'avoue que je suis épuisé, je suis essoré, mais soulagé, et voilà, quand ça se termine bien, c'est toujours plus facile.
New York, c'est un des plus beaux marathons.
Ouais, c'est le plus légendaire. C'est aussi le plus dur, je trouve, des 7, franchement, c'est celui qui est le plus difficile en termes de dénivelé.
Je l'ai fait, je fais une heure de plus ou de moins que toi.
Ouais, c'est
de plus, non, mais c'est extraordinaire.
C'est légendaire. Franchement, c'est New York. Bah, de toute façon, c'est les Américains étaient dans un film là-bas. Donc, franchement, c'était fou.
Il paraît, juste une petite parenthèse pour en avoir discuté avec certains participants. c'est un peu déceptif, New York, que tu arrives, t'es parqué dans des endroits affreux avant le départ, que le parcours est pas génial et que c'est pas hyper bien organisé. C'est vrai ou c'est une légende?
Non, franchement, je sais, moi j'ai jamais entendu ça, mais non. Alors c'est vrai que t'es parqué longtemps au départ, mais ça c'est tous les grands marathons quand t'es 60 000 au départ. Mais après, tu peux pas dire, tu termines à Central Park, c'est juste, c'est lunaire.
T'as couru à fond.
Je connais, j'ai un appartement là.
T'as couru à fond New York.
De 300 mètres carrés.
T'aurais pu gérer pour être sûr d'être en dessous des 2h30, mais t'as pas voulu. T'as essayé de chercher la performance absolue. Pourquoi?
Bah parce que non, mais c'était une allure qui me correspondait. Je savais que c'était le dernier, donc je pouvais profiter. J'avais mes proches qui étaient là, donc c'est vrai qu'à 1 kilomètre de l'arrivée, je me suis même arrêté faire un bisou à tout le monde parce que je savais qu'il y avait ce record du monde à l'arrivée. Et bah voilà, j'avais juste envie de profiter. Et moi, j'aime bien courir quand même avec un peu de panache et j'aime pas juste courir pour faire un footing. Donc j'avais quand même envie d'avoir cette sensation de vitesse et de pouvoir donner le maximum.
Tu cours un peu pour ta commu, là, t'as plein de fololo.
Ouais, j'ai la commu, ils sont là. Non, mais c'est clair qu'en vrai, même la veille, on fait un run communautaire, on était 130 à New York, c'est quand même un truc de ouf. Ouais. Mais franchement, juste dire, on se donne rendez-vous, on fait un petit footing tous ensemble, il y a 130 Français qui viennent, c'est un truc de dingue.
Le tour de Manhattan?
On a fait le marathon, on a fait le marathon déjà la veille. Et...
Non,
on était juste le long du fleuve, là, on a fait juste 5 km histoire d'eux, franchement, c'était génial.
Il n'y a pas une fois sur tes 7 marathons où ton corps te lâche, où tu dis, ah merde, peut-être que ça va pas le faire, une blessure, un truc musculaire.
Une sensation,
Quand j'ai fait Boston et Londres, là, 6 jours d'intervalle, là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais vraiment fatigué, j'étais dans le dur. Mais pour autant, ça a tenu, donc je suis content. Mais là, j'ai serré les dents, j'ai bien
souffert. T'as eu mal quelque part? T'as des douleurs précises?
Franchement, je crois que c'est la plus grande chance que j'ai, c'est que moi, je me blesse jamais. Genre, je me blesse jamais. Et alors, forcément, il y a des douleurs musculaires, mais j'ai eu aucun pépin physique tout au long de l'année.
Alors pourquoi t'as arrêté?
Parce qu'il y en a pas d'autres. Si t'as une idée, vas-y.
Et,
chaud.
Et psychologiquement dans la tête, est-ce qu'au milieu de défi, pendant un des marathons, il y a pas un moment où tu te dis, qu'est-ce que je fais là en fait? Pourquoi je me suis mis là-dedans? Au-delà de la douleur physique et de la course à pied pure et dure, mais dans la tête, il y a pas un moment où tu te dis ça sert à quoi en fait?
En fait, ça m'est arrivé de me le dire, mais je sais aussi pourquoi je l'ai fait et si j'ai eu cette idée, ce projet à raconter, parce que il y a le côté record du monde et tout ça, mais c'est avant tout une aventure humaine et vraiment un projet à raconter, une aventure à raconter. Et donc en fait, dans les moments difficiles, je me dis en vrai, t'es là où tu veux être et c'est difficile, mais c'est pour ça aussi que tu le fais. Donc il y a eu des petits moments de doute, mais très vite balayé aussi par la sensation d'être soutenu par plein de gens, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable.
T'as filmé ton histoire, il y a un documentaire qui va sortir sur RMC Story.
Ouais, RMC Découverte le 13 décembre. Ouais, le 13 décembre, beau documentaire qui va raconter l'aventure humaine et qui le but c'est Miles of Discovery, c'est découvrir le monde à travers les kilomètres en s'appuyant sur les plus grands marathons du monde et surtout montrer que quand on a envie et qu'on a des projets
sur tes 7 marathons.
Ouais, sur les 7 et ouais, sur toute l'année.
Sans spoiler le doc évidemment, il y a des moments de galère quand même.
Ouais, il y a des moments de galère.
Il y a des vomitos, il y a des vomitos.
Ouais, ça arrive.
C'est vrai.
Ouais, 2-3 fois, je crois.
Ah ouais, physiquement. Ouais, il y a
même
des moments
à New York, je crois que c'était la pression, je suis arrivé, j'étais bien, grande galette.
Vincent aussi, il y a des documentaires, il y a des vomitos.
Dis-moi. Tu t'entraînes toute l'année?
Ouais.
C'est quoi ton programme d'entraînement?
Là, c'est un peu particulier parce que quand t'enchaînes des marathons tous les 3 semaines ou les 6 jours, tu dois à la fois récupérer de celui d'avant, être entraîné pour pas être en phase de désentraînement. Mais sinon, cet été, je suis monté à Font-Romeu pour m'entraîner en altitude. Et ouais, c'est 10 entraînements par semaine, 10-12 entraînements par semaine et
des gros volumes.
Sur mes plus grosses semaines, je suis à 160, 170.
Ah ouais, ouais. Dorian Louvet, le français de basket, non? Qui a couru les 7 marathons majeurs avec une moyenne de moins de 2h30. Revenons sur l'enchaînement Boston-Londres. Tu cours un marathon à Londres, 7 jours après, une semaine après un marathon à Boston.
Ouais, le contraire, Boston, le lundi matin.
C'est Boston après Londres?
Boston avant Londres.
Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu disputes Londres après, une semaine après Boston.
Ah oui.
Avec en plus le déplacement, il y a un peu de décalage horaire. Londres, ça a été un supplice ou pas plus que les autres?
Ouais, si. Parce que
le temps n'est pas moins bon.
Et oui, c'est ça qui est curieux. Ouais, c'est curieux. Je peux pas vous dire. Je cours Boston le lundi matin parce que c'est un jour férié, donc j'aurais même préféré que ce soit le dimanche, mais là c'était le lundi matin. Et après, du coup, le mercredi, faut aller à Londres pour recourir le dimanche matin.
Non, puis l'avion.
Ouais, l'avion, le jet lag, franchement, c'était super compliqué. J'ai essayé de tout mettre en face pour la récupération. Et c'est vrai que du coup Boston, je l'ai couru en me disant t'as quand même, en fait tu peux pas dissocier les deux, donc je me suis dit ok, tu cours Boston mais dans 6 jours t'as à Londres, donc donne pas tout.
Et entre les deux, tu sais que t'as pas couru pratiquement.
Ouais, j'ai recouru je crois le vendredi petit footing et le samedi mais 2 fois 30 minutes, C'est tout. Et, en fait, le dimanche matin, quand je pars, j'ai mal aux jambes.
Et Dorian, loin de moi d'avoir des soupçons de malveillance sur toi, mais est-ce que, parce que t'as validé un record du monde, c'est été validé par le Guinness Book des records, record du monde, est-ce que pour valider un record du monde comme ça sur la course, il y a des suivis d'antidopage
ou même pas, parce que du coup, le Guinness World Record, c'est pas non plus quelque chose d'officiel. Voilà. Et je me suis posé la question, mais non, j'ai pas eu un contrôle
du tout.
Tant mieux.
Est-ce que tu peux nous dire
pas trop tard, tu vas pisser, tu vois la bouteille de Pierrot là, tu vas pisser dans la bouteille de Pierrot.
J'étais en Martinique la semaine dernière, si je pisse à mon avis c'est pas...
c'est du rock que tu vas pisser.
Alors, est-ce que tu peux nous dire en des termes relativement simples, sans rentrer dans les détails, quelle est la grosse différence entre courir un marathon et courir 7 marathons?
Bah c'est la gestion de l'effort, tu peux pas... Il faut réussir à courir le marathon en se disant que... t'as pas donné à 100% pour pouvoir récupérer plus facilement et te remettre ça.
T'arrives à toi, de toi-même, te dire je cours à 90%, ça existe ça?
Ouais, ça existe puisque mon premier marathon que j'ai fait à fond à Tokyo, j'ai fait 2h18 et c'est mon record perso. Là, j'étais à bloc et tous les autres, je les ai enchaînés en 2h25, 2h27, 2h28.
Donc, il y a. C'est
exactement, j'étais
en mode footing, quoi.
Tentant de boire un café et c'est vrai que du coup, bah, dans l'allure, t'es quand même un peu plus facile.
Et tu cours Tokyo à fond pour prendre de l'avance sur le record ou juste parce que t'avais plus de temps de récup?
Parce que j'avais plus de temps de préparation. C'était le premier, donc c'est le seul que je pouvais faire vraiment vraiment à fond. Parce que derrière, bah, quand t'arrives sur 5-6 que t'en as déjà fait plusieurs dans l'année, forcément physiquement t'es pas au top.
Et aujourd'hui, t'aimerais pas descendre en dessous des 2h18?
Si, bah ça sera.
C'est un objectif ou pas?
Ouais, si un jour je refais un marathon et j'en ferai un, l'objectif ça sera de battre mon record perso, ça sera plus de réenchaîner comme ça.
Tu l'as dans la tête,
je pense vraiment que ça m'a fait franchir un cap cette année, le fait d'enchaîner les marathons là en fin d'année et de devoir m'entraîner toute l'année. Maintenant, c'est une distance que j'ai l'impression de connaître par cœur, qui a plus de secret pour moi, et donc tu prends forcément de l'expérience. Donc avec une grosse phase d'entraînement, je pense que sur le prochain, j'essaierai d'aller chercher 2:15. Enfin, ça paraît c'est 3 minutes, mais c'est quand même beaucoup.
C'est énorme.
T'étais un grand pote de Jimmy Gressier, donc a vécu ses performances avec émotion. Lui, il a pour ambition peut-être plus tard de passer son marathon. Tu penses que lui, il peut tout arracher son marathon?
Peu importe ce qu'il fait, il va tout arracher. C'est une machine de guerre. Et moi, je suis trop content de ce qu'il a fait au championnat du monde, d'être champion du monde de 10 000. C'est une perf qui est encore, c'est beau, enfin, qu'on soit d'accord. Moi, j'ai un record du monde, rien à voir avec Jimmy, c'est deux mondes différents. Lui, c'est strato. Je sais qu'il veut passer sur marathon, et quand il va passer sur marathon, je sais qu'il va tout casser. Lui, sur son premier, il fera, je pense, 2-6, 2-5. Sur le premier.
Et de faire les JO à Los Angeles aussi, tu penses? Marathon? Il a posé la question, il savait pas trop parce que c'est un problème.
Il sera plus tard.
À la base, c'était le projet. Son projet, il était bien écrit, mais dans tout son projet, il n'y avait pas prévu d'être champion du monde du 10 000. Donc là, ça redistribuer les cartes.
Honnêtement, il se dit, tu le connais par cœur. Est-ce qu'il t'a bluffé? Est-ce que tu t'attendais à ça?
Non.
Tu le voyais pas?
J'étais chez lui à Font-Romeu, en fait, cet été, pendant moi que je préparais mes 4 marathons et lui, il préparait le championnat du monde. Et on en parlait. Et en vrai, ce qui est incroyable, et je pense que ça, c'est digne d'un champion, c'est que je pense que s'il y en a que un qui pensait qu'il pouvait faire podium au championnat du monde, c'est lui. Vraiment. Lui, il se dit, pourquoi pas? Et quand il gagne la Diamond League juste avant, ça lui met dans une confiance. Et moi, avant, tout le monde me dit, tu penses qu'il va faire quoi, Jimmy? Franchement, il est en forme. Je pense qu'il peut réussir à faire dans les 6 premiers. Tu vois, peut-être accrocher le top 5, gagner, c'est quoi. Ouf. Mais franchement, le podium, j'y croyais pas. Mais gagner, j'aurais pas mis
10 000 mètres des championnats du monde cet été, on vous le rappelle. On est avec Dorian Louvet, donc qui a couru 7 marathons, les 7 majeurs, en moins de 2h30 de moyenne. Pourquoi t'as fait ça, en fait, Dorian?
Oui. Ouais. Bah franchement non mais aujourd'hui moi mon job c'est un peu de raconter des histoires à travers la course à pied, même si moi mon mindset c'est un peu la performance et j'aime la compète, mais aujourd'hui j'aime raconter des histoires. C'est sept marathons que je voulais faire. Quand t'aimes le marathon, c'est les plus grands du monde, tu veux les faire. Et je suis pas patient et je me suis dit lequel je fais en 2025, vraiment j'hésitais. Et après je me suis dit pourquoi j'essaierais de pas tous les faire, et ça me paraissait un peu con quand je l'ai dit. Et après j'ai essayé de raconter l'histoire, et en vrai je me dis on peut raconter une aventure humaine incroyable, on peut faire passer des messages forts, pas celui de faire les 7 marathons parce que je le déconseille à tout le monde, mais de se dire que voilà, en se fixant des objectifs avec une paire de baskets, on peut tous aller chercher ses propres émotions et ses défis. Franchement, c'était génial.
tu étais plus un aventurier puisque tu te files de record avec une grosse, bien sûr, des aptitudes pour la course. Mais donc, les prochains trucs que tu vas faire, puisque tu aimes raconter des histoires, ça va être quoi dans le Groenland, la chasse à l'ours, un truc un peu différent, quoi.
Si tout est possible.
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est ce que tu recherches. Ce que tu recherches, c'est le grand frisson, c'est l'adrénaline.
Ouais,
donc là, bon, la course, c'est fini. T'as fait ce qu'il y avait de plus dur, les marathons. En plus, tu les as enchaînés. Donc là, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? De la montagne?
Je pense que je vais aller un petit peu sur trail.
Ça c'est
pas facile. Non, je pense que je vais aller un petit peu sur trail pour découvrir justement des nouvelles aventures, des nouvelles émotions. Mais j'en ai pas terminé avec la course à pied. C'est pas parce que j'ai fait ces 7 marathons là que c'est forcément terminé. Faut juste se fixer un nouvel objectif, une nouvelle raison de te lever le matin pour aller t'entraîner. Et puis après,
on a du foot 3 fois.
On verra.
Dorian, tu es un des représentants de la course à pied. Il y a un phénomène autour de la course à pied en France. Tout le monde se met à courir, ce qui est bien d'ailleurs. Le profil, quelqu'un qui a, je sais pas, entre 30 et 40 ans, pas trop sportif, qui décide.
Ouais, jeune divorcé. Ouais,
en surpoids. Non, mais qui se dit, je pars quasiment de zéro, je veux faire un marathon. Quels sont les 2-3 premiers conseils que tu lui donnes pour s'y mettre? Pour se mettre déjà même à la course à pied et à l'arrivée, peut-être 2 ans plus tard, finir avec un marathon.
Ouais, parce qu'on a tendance aujourd'hui.
Pour pas se dégoûter aussi, tu vois.
Ouais, bien sûr, on a tendance, grâce ou à cause des réseaux sociaux, de banaliser le marathon. Mmh. On veut courir, on veut tout de suite faire un marathon parce que c'est la distance mythique.
Il faut pas.
Mais il y a quand même peut-être quelques étapes à franchir avant. Et si tu veux faire un marathon et que aujourd'hui tu cours pas 3 km, tu vas te dire, la marche elle est trop haute, donc je vais pas y aller. Donc faut se fixer, je pense, des objectifs intermédiaires. Commencer par 5 km, 10 km. Et en fait, tu verras que t'as la même fierté à aller terminer ton premier 10 km officiel en moins d'une heure, par exemple, et de se dire, ah ouais, j'ai vraiment progressé par rapport
et
à la prochaine fois.
Et on progresse vite en course à pied.
Et on progresse super vite. Franchement, on progresse très vite. Le seul risque, c'est de se blesser parce que tu veux justement trop en mettre, trop vite, trop fort. Et franchement, faut y aller progressivement. Mais sincèrement, les émotions qu'on va chercher dans le sport, là, c'est vrai que le running, parce que le running, c'est facile. Tu mets là, on prend tous une paire de baskets, on va courir tout de suite. On passe un bon ou un mauvais moment. Mais en tout cas, on finit, on a tous transpiré, on est content.
C'est facile.
Et c'est pour ça, je pense.
Merci beaucoup, Dorian, d'être revenu dans le parc. Il a vu Mbappé, il était applaudi à Mbappé.
Quand même, s'il a marqué 2 buts, j'ai d'applaudir.
Toi qui es cané, c'est vive Orelsan ou vive Mbappé?
Non, mais à quand c'est Orelsan le boss. Il arrive, il est pas en terrain conquis, donc il faut qu'il fasse attention quand même.
J'ai applaudi Mbappé,
il a mis 2 buts.
C'est ton idole Mbappé ou pas?
Non, c'est pas mon idole. Non, mais j'aime le joueur, tu peux pas. Mais on en parle en off, mais je préférais quand il était à gauche.
Merci Dorian.
C'est bon. Bravo Dorian.
Comment tu fais pour te lancer un autre défi?
Bon, là.
Alors, 14 marathons maintenant.
Ils aiment souffrir, les mecs. Ça, c'est pas un marathon, mais c'est aussi violent parfois. C'est le Kikadi qui arrive tout de suite. Vincent va tenter de tricher dans ce Kikadi du jour. Va-t-il y arriver? Suspense.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h. Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aiguin.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est 17h45. Top jingle.
RMC, le Kikadi du Super Moscato Show.
Aurélien face à David. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors vous allez vous affronter pour remporter un portable de la marque Altic. Tirage au sort des équipes. Pierrot, j'ai marqué le premier point. Qui Pierrot, sera tu vas jouer. Partenaire.
Pierrot, tu vas jouer avec Denis Charvet. Oh, et Vincent sera associé. À Eric Dimeco. Alors, on me dit boule noire, puisque beaucoup de contestations contre l'arbitre, l'arbitrage ce dernier jour.
Surtout,
on a atteint la limite, monsieur Dimeco.
Non, mais tu sais, tu vois le Sénégal, ce qu'ils ont fait dimanche, à côté de ce que je vais faire, c'est rien du tout.
Tu l'as déjà fait.
C'est rien du tout. Parce que. Non, mais je l'ai déjà fait, mais je peux faire mieux. Parce que bon, les carottes d'arbitrage, les boules noires pour rien.
Je me méfie de Vincent parce qu'il a préparé, il a 3 noms sur sa feuille.
3 noms. Il a l'air sûr de lui. Je pense qu'il m'a. Il pense qu'il pense. Oui. Qui m'a grillé des réponses.
Alors, c'est pas le genre de la maison.
Donc, les équipes Denis et moi contre Vincent et Eric. Aurélio, c'est toi qui choisis ton équipe.
Quelle escroquerie. Tout. Vincent et Eric, allez.
Allez, bien. C'est curieux ça. Il a compris qu'il s'était passé quelque chose, Aurélio.
9 minutes dans ce Kikadi, une éventuelle Golden Carotte qui remettrait le score à 0-0. Peut-être du MMA, par exemple, dans ce Kikadi. Je ne sais pas.
Je sais pas moi.
Non, triché.
Non, Kikadi, Kikadi. Elle est pas facile, celle-là. Je reprends l'entraînement. Pour moi, c'est une thérapie de renforcement mental. C'est très sérieux.
Vincent Luis.
Parce que Vincent Luis, non, il est passé à côté de la mort il n'y a pas très longtemps.
Ah, Froome, non pas Froome, l'autre là.
C'était pas dans les fêtes de Noël.
Roglic.
On est
dans
les
fêtes de Noël.
C'est Joshua.
Joshua. Oh, Anthony Joshua.
Bravo.
Et une vidéo a été publiée d'Anthony Joshua, Vincent qui reprend l'entraînement. Et en gros, il explique dans sa petite.
Mais non, mais à cause de Pierrot, je cherchais un cycliste.
Ah, ouais, je cherchais un cycliste aussi, ouais.
Il explique dans son petit texte que, bah, en fait, la meilleure façon de passer à autre chose, c'est de mettre des mornifles, de reprendre l'entraînement, de boxe, de sac, voilà.
D'ailleurs, moi, quand je vais monter à Paris, Adrien, prépare-toi parce que j'ai besoin de mornifles aussi.
Il était déjà pas, il était sur la pente descendante déjà, là, avec ce qui lui est arrivé.
Je sais pas ce qu'il peut faire, putain, il a 35 marrons, je sais pas ce qu'il peut faire.
Question d'un coup.
S'il est curieux, comme il morfle des fois, tu te dis, pouf.
Une seule proposition possible, s'il vous plaît. L'année dernière, on révise le tournoi. L'année dernière, quel joueur est élu meilleur joueur du tournoi destination?
Bien Biarré.
Bien Biarré, bien joué.
Ah ben non, mais bien Biarré,
Pierrot, t'es là.
Ça va trop vite.
Oh, Pierrot.
J'ai essayé. Contrairement à certaines dans cette équipe, moi j'ai essayé.
2 à 1.
Lui, par contre, il la met pas une dedans. Il met tout comme le pour nos Belges, c'est Vincent. Jamais la boule noire. Jamais la boule noire. Mais c'est bon.
Après, c'est le chouchou de Fred et de Suzanne.
Mais c'est plus que le chouchou d'après moi.
Question en un coup.
Méfie-toi quand même de ce que tu dis.
Question en un coup. Quel joueur de Toulon rugby vient d'être sélectionné, éliminé, vient de sélectionner pour le tournoi des Six Nations avec l'Écosse?
Joueur
de Toulon, écossais, sélectionné pour le tournoi.
White.
Ben White, bien joué. Pierrot Dorian, bien joué. Bien joué, numéro 9, voilà, c'est la doublure de Baptiste Serin, il se partage le
poste.
Ben White.
On n'a pas mis là.
On n'a pas mis Pierrot. Bien, Pierrot, il connaît 3, son Toulon, 1. Il connaît son Écosse, Pierrot.
Putain, tu vois, là, c'est con que j'aurais pu être avec un monsieur Rubin.
Vincent, il est trop déçu. Vincent, il est trop déçu parce qu'il a déjà une réponse sur sa feuille, il était persuadé que ça allait tomber, pour l'instant, ça ne tombe pas.
Il n'y a rien qui tombe.
Non, mais le problème, c'est que. Non, mais le problème, comme il est babao, lui, comme il est babao, même s'il a la réponse d'un autre, il ne va pas répondre, lui, il va répondre que sur sa feuille.
On parle beaucoup de ce sujet et de cette région en ce moment dans l'actualité. La bonne réponse n'est pas Copenhague. Donnez-moi la capitale du Groenland.
Nuuk.
Bien joué, Denis. N-U-U-K.
Putain, il me l'a pris.
Nuuk.
Putain, il me l'a pris.
Mais c'est pas peine de répéter. 4 à 1, bravo Denis.
Nuuk, quoi.
Ouais, Nuuk, Groenland.
J'ai bossé. C'est bossé, ça. Hein.
C'est bossé, ça. Ah, il paye.
Qui vient, là, contre un peu la moitié. Oh, la bordée, qu'on va les mettre. On a envoyé les 15 meilleurs. On a envoyé les 15 meilleurs de l'armée française. Ah, oui. Je veux te dire qu'ils sont aiguisés. C'est des glaives. On les appelle les glaives, quoi.
Auditeur.
Ah oui,
d'envoyer. Aurélio et David.
On va envoyer Fourcade, mais c'est ce qui connaît la carabine.
Elle est très facile, mais on va vérifier si vous suivez l'actualité. Aurélio et David, qui a dit « J'ai passé la moitié de la nuit au téléphone avec Ashraf. »
Mbappé.
Ouais, c'est nous. C'est pour ça.
Et David.
David qui a démarré.
Alors là, si c'est pas David, je m'en vais dans la tête.
Non, mais l'un qui a démarré avant l'autre.
C'est David, c'est la voix la plus grave.
C'est pour nous.
C'est la voix la plus grave.
C'est pour nous.
Ah, toi, tu connais les voix, toi.
Oh, David, c'est l'équipe Charvet d'Orient, ça fait 5 à 1.
Dans un instant, mais lui connaît les voix des mecs qu'il a rencontrés il y a 5 minutes.
Donc le monsieur qui fout des raisonnements, là, il a trouvé qu'un point. Quoi.
La fin du Kikadi, 4 minutes 10. Alors, David mène 5 à 1 face à Aurélio.
15 secondes, je vous raconte ce qui s'est passé pendant la petite pause. Donc Vincent, sur sa feuille, avait cru pour bien tricher, c'est-à-dire qu'il avait mis White sur sa feuille. Il y avait Ben White, la réponse qu'a eu Pierre d'Orient, l'écossais de Toulon, joueur de rugby. Sauf que Vincent, Eric, avait marqué Dana White, le patron du MMA.
Non mais je t'ai dit que lui, il a la réponse, mais c'est pas le bon sur le feuille, il le dit pas.
Oh, purée, c'est trop beau.
Et tu m'enlèveras, Adrien, tu m'enlèveras pas de l'idée que Denis l'a triché.
Ok, d'accord. Question d'un coup.
Parce que Nuuk, tu n'as pas fini la question.
J'ai bossé,
qui donne la réponse.
Mais si, la
capitale.
Bossé
de quoi
il a dit,
c'est pas Copenhague, et tu as envoyé Nuuk. Donc, tu as triché. C'est bon, il y en a qui a donné la réponse.
Tu triches jamais toi Eric?
Jamais.
Question en un coup. Ce soir, Marseille-Liverpool. Ouais. Un coup. Dans sa carrière, Quel joueur a marqué 24 buts avec Liverpool et 37 avec l'OM?
Zenden.
Éliminé. Djibril Cissé. Ouais. Tu pars avant Vincent, bravo.
Ouais. Ouais.
Vous êtes tous ensemble.
Vous êtes dans la même équipe.
Djibril Cissé.
5 à 2.
Et comment il sait, lui? Il part avant moi.
J'ai marqué, j'ai bossé moi.
Bah, il a marqué sur sa
feuille. Ça, c'est de la culture.
Ah, de Dana White.
Non, mais quand même. Ça, c'est de la culture foot.
Ça, c'est
non,
foot,
mais quand même, vous dites rien.
Voilà.
Non, mais tu dis rien.
Le problème, c'est qu'il a failli pas répondre parce qu'il avait marqué Edouard Cissé.
Je te le dis, il y a Trump aussi, donc je suis pas dans une belle.
Va arriver,
non, 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 j'ai mis comme sens, si jamais.
Oui, bien sûr. Ouais.
Allez,
allô Manu. Allô Manu, j'aime beaucoup l'accent
français. 5-2. Quel est le métier,
oui,
du monsieur? Quel est le métier du monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Ndala?
Jean-Jacques Ndala.
Métier,
Ndala.
C'est président.
Qu'est-ce qu'il peut faire?
Éliminé. Mais non, pas éliminé. Ah non, c'est pas vous pouvez enchaîner.
Alors, ah, c'est l'arbitre du, c'est l'arbitre du match.
Arbitre, oui, c'est l'arbitre de la finale de la CAN.
Mais oui, c'est l'arbitre que. D'ailleurs, j'ai dit. Tu sais quoi?
Je vais non.
Je vais t'appeler. C'est bizarre.
Je vais t'appeler Ndala. Je vais t'appeler Ndala. Je vais t'appeler
BFM ou si c'est
une question. Non, Ndala. C'est Dieu donné qui s'appelle Ndala. Ndala.
Jean-Jacques Ndala. N-D-A-L-A. L'arbitre de la finale de la CAN.
Je vais t'appeler Jean-Jacques Ndala, toi. Je vais t'appeler.
Mais c'est Mbala ou Abdala?
Ndala.
Oh ouais,
Ndala.
Score, Pierrot.
Score 5-3. Qu'est-ce qui se passe, Pierrot? Je te vois parler en régie, là.
Non, je parle en régie parce que des fois, on a besoin de communiquer avec la régie.
Eh oui. Il y a du monde en régie, il y a tout un cop, là.
Oui, bah oui, il donne les réponses.
Hier.
Il donne les réponses, exactement. Oui, oui, il donne les réponses en régie.
Ouais. Il reste 1 minute 40. Hier.
BFM, non, c'est pas.
Non,
c'est
non quand je dis. Laissez-moi, laissez-vous faire.
Mais c'est hier. BFM, là.
Non. Quel international de foot français est décédé à l'âge de 91 ans?
Lucien Muller.
Ça fait 6-3. Il reste une minute.
Il a joué avec Ericsson. Tu as fait quelque chose, Ericsson.
Arrêtez.
Non,
vous avez que la Golden pour gagner.
BFM TV.
Vous le savez maintenant.
Ouais. 45 secondes dans ce Kikadi. BFM TV. Kikadi.
Trump.
Je suis très content que ces deux chasseurs aient été condamnés. Luc Besson.
Ah oui, le chasseur, il a tué une chevreuil sur son terrain. Quoi. Le mec,
7-3.
Je le savais, ça aussi. Quoi.
Sur son terrain, sur lequel vivait sa maman, en plus. Ouais, donc, c'est pas cool. Quoi.
Tu savais la vieille. Donc,
Non, mais Adrien, Denis, t'as volé les réponses.
Mais non, je bosse.
Mais tu bosses de quoi?
Je paye un mec, quand même.
Si tu bossais, ça se saurait.
Allez, un coup, t'es jaloux comme ça. C'est incroyable. Parce qu'il pense que t'as mieux de
tricher
que
lui. Oui, mais je triche pas, moi, le problème.
Je jette tout le travail que j'ai fait en amont me sert à rien.
Question en un coup.
Allez, concentrez-vous. C'est
quel sport
fini.
Pratique Dewi Lake?
Du tennis.
Éliminé.
De quoi
Dewi Lake. Prénom Dewi, nom Lake.
Hockey sur glace.
C'est quoi? Éliminé, Pierrot.
T'as dit quoi, toi?
Hockey sur glace. Mmh.
Moi, j'entends que Jean-Paul arrive. Non, je ne sais pas.
2, 1.
Ski alpin.
Éliminé. Eric, tu veux tenter quelque chose? Non, c'est fini. C'est tout simplement le capitaine du Pays de Galles pour le tournoi Destination.
Oh,
c'est du rugby. Il joue au rugby. Il remplace Jack Morgan qui est blessé. Bon, c'est pas grave, les gars.
Non, mais là, tu sais quoi? On a les deux plus gros cagres du rugby, de la France et de Navarre.
Non, mais là, ça fait longtemps qu'il y est, lui, non?
Alors, on est arrivé au bout du chrono, le score de 7-3 pour David. C'est fini, on a encore gagné.
Un peu de silence, s'il vous plaît, vous êtes un peu indiscipliné. 17h59, beaucoup à cause d'Eric d'ailleurs. 17h59.
Oui, bien sûr, c'est toujours moi.
S'il y a pas de Golden Carotte, Pierrot est en route vers un grand chelem. Il sera à deux marges d'un grand chelem. Et ça, c'est beau, ce serait beau, Pierrot. Sinon, c'est 0-0 et balle de match chez la Golden. Dans 15 secondes, c'est Rotten sans flamme, spécial Marseille-Liverpool. La Golden Carotte n'est pas là. Pierre est en route vers un
grand chelem. La carotte, Eric.
Moi, je croyais plus.
Il arrive même pas à tricher, c'est incroyable. Vincent, c'est fou.
C'est ce qui nous fait le plus rire.
Ah, ouais. Le mec, il n'arrive pas à bien tricher. C'est alors, incroyable.
Demain, oui. Débat Mbappé et Dupont, sont-ils intouchables en bleu? Invité. Un grand champion, une légende du sport français, Roland Gapet, double champion olympique. Et puis on reviendra sur ce documentaire sur Nice Nack qui avait fait ressurgir le pire épisode de l'histoire du football français avec Raymond Domenech en guest star, bien sûr.
Et son journal intime qu'on avait décortiqué, c'était assez incroyable.
Allez, demain, 15h-18h sur RMC.
Retrouvez tout de suite le Super Moscato Show en podcast sur rmc.fr et l'appli RMC.